des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Je sais pas si vous avez lu ça, mais il y a un homme qui était soupçonné d'avoir violé et tué deux femmes il y a près de 40 ans à Toronto, qui a finalement été arrêté 40 ans plus tard. Il est arrêté vendredi grâce au progrès de la génétique et surtout à l'essor des sites de généalogie en ligne. Vous savez, ces sites-là où vous donnez, c'est quoi? C'est un peu de sang, un peu de votre salive, vous envoyez ça là-bas et on peut retracer vos ancêtres. On a pu retrouver ce gars-là 40 ans plus tard. Nous allons parler avec Mme Dominique Richotte, coordonnatrice à la Société généalogique canadienne-française. Bonjour, madame. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille?
Moi, je prononce Richo, mais Richotte, ça fait pareil.
Bon, Richo, c'est parfait. Alors, Dominique Richo, comment on peut mettre la main sur un gars qui était accusé de viol et de meurtre il y a 40 ans grâce à la généalogie?
Ben, de plus en plus, il y a des sites Internet comme Ancestry, 23andMe, MyHeritage qui offrent des bases de données en ligne là où on peut verser nos arbres généalogiques et des bases de données où on peut verser notre ADN, nos tests ADN. Donc on fait des recoupements entre ces différentes bases de données là. C'est sûr que depuis les cinq dernières années ou les dix dernières années, ces bases de données-là sont de plus en plus grosses et de plus en plus précises aussi.
Mais c'est quoi on peut retrouver? C'est des bases d'ADN, finalement? C'est qu'on peut retracer l'ADN de plein de gens grâce à ces bases-là?
C'est que lorsqu'on envoie notre test ADN sur des sites comme 23andMe ou MyHeritage ou FamilySearch ou Ancestry, c'est versé dans une base. Il y a deux types de tests. Il y a les tests pour retrouver des parents plus ou moins proches, puis il y a des tests pour trouver l'ethnicité. Donc, on va déterminer à partir des tests de parents proches et on va faire des recoupements avec d'autres tests qui ont été envoyés par d'autres personnes et on va faire des recoupements à partir de ça avec les arbres généalogiques en ligne qui sont versés par les abonnés de ces sites-là. C'est sûr qu'il faut faire attention avec les arbres généalogiques en ligne parce que souvent il y a des erreurs, les gens comprennent pas nécessairement comment ça marche, mais c'est de plus en plus facile de le faire parce que un arbre généalogique, ça se fait à partir, c'est sûr, de nos ascendants, mais ça se fait aussi à partir de la documentation comme les baptêmes, mariages, sépultures, ce qu'appelle les vital records en anglais, tout ce qui sert finalement à identifier un individu. Alors, plus les arbres sont bien documentés, plus on est capable de faire de recoupements, plus on est capable de faire ce qu'on appelle des indices qui vont nous aider à identifier les différents individus.
C'est ça, des enquêtes croisées là, entre différentes banques de données. Vous parlez de banques de données, Mme Richo. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende urbaine que une des plus grandes banques de données au monde concernant la généalogie, c'est l'Église mormon?
Effectivement, c'est vrai parce que une des bases de la religion mormone, c'est de retracer tous ses ancêtres, puis après ça, ils baptisent mormons, en fait.
OK.
Mais effectivement, ils ont depuis, je sais pas combien de temps, mais on va dire 50, 60 ans, ils ont accumulé des arbres généalogiques, mais surtout toute une vaste banque de documentation, baptême, mariage, sépulture, recensement, tout ce qui sert à identifier quelqu'un. Et ils ont leur site internet, là, c'est FamilySearch, et la plupart de ces documents-là sont disponibles sur FamilySearch. C'est gratuit, là. Il y a d'autres bases de données comme Ancestry ou des bases de données québécoises comme Généalogie Québec où vous devez payer un abonnement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès aux documents originaux en ligne.
Mais c'est très...
Parce que c'est bien important. Quand on fait un arbre généalogique, c'est important de se baser sur de la documentation officielle, fiable et qu'on peut consulter, consultable.
Est-ce qu'il y a comme, je sais pas, une corporation, une fédération, une association? Vous, vous faites partie de la Société généalogique canadienne-française.
Ouais, est-ce qu'on peut... Nous, on existe depuis 80 ans, donc on s'est formé pour que c'est une société d'entraide où les gens font leur propre recherche à partir de la documentation qu'on a. C'est chapeauté aussi par la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et la Fédération Histoire Québec. Il y a des sociétés de généalogie partout au Québec. Nous, par exemple, on est la plus ancienne. On va célébrer notre 80e anniversaire l'an prochain. Et les gens deviennent membres et avec l'aide de nos bénévoles, ils peuvent faire leurs recherches eux-mêmes. Et s'ils désirent, ils laissent leur documentation généalogique chez nous, puis on la rend disponible aux autres membres. Il existe aussi des sites en ligne où on peut verser sa généalogie. Personnellement, moi, je recommande pas nécessairement de se fier à ces sites-là, à moins que toutes les données soient appuyées par des documents crédibles, des documents officiels.
C'est très populaire depuis quelques années. J'ai des amis, moi, qui ont justement envoyé, là, c'est quoi, c'est une salive ou une goutte de sang qu'on envoie à ces sites-là?
Généralement, c'est des tests à partir de la salive. C'est sûr que plus les bases vont grossir, plus les tests vont être fiables. Mais les tests, par exemple, pour identifier des parents assez proches, c'est en général assez fiable. Moi, je connais des gens qui ont retrouvé leurs parents biologiques comme ça ou des membres de la famille éloignés depuis longtemps. Donc, c'est assez fiable parce que c'est basé justement sur la séquence génétique. Donc, quand on trouve une concordance, on va, mettons, le troisième, un petit cousin ou un arrière-petit cousin ou des frères et sœurs ou des oncles et tantes, on est capable à partir de ce moment-là à faire un recoupement avec des arbres généalogiques,
Dominique,
à retracer des descendants vivants.
Et Madame Dominique Richetou, comme je disais tantôt, c'est populaire depuis quelques années. J'ai des amis qui ont fait le test autour de moi. Je savais pas qu'ils étaient passionnés par la généalogie, mais est-ce que vous reliez ça? On parle beaucoup d'identité depuis quelques années. Hein. Le thème de l'identité, c'est très à la mode. Retrouver ses racines, son origine, est-ce que j'ai du sang autochtone, est-ce que j'ai du sang noir dans mon sang, est-ce que vous reliez ça à ça, la popularité?
Oui, je relis ça un peu à ça, effectivement. Il y a de plus en plus de gens qui veulent savoir, par exemple, s'ils ont des origines, s'ils ont un ancêtre autochtone. Mais comme je dis souvent, moi, l'ADN autochtone, ça fait pas de toi un autochtone. Ce qui fait de toi ce que t'es, c'est la culture et c'est l'expérience.
Ben oui.
Ça, c'est sûr. Les gens aussi le font beaucoup pour... Des fois, il y a beaucoup de gens qui le font justement pour retrouver dans le cas des adoptés, par exemple, pour retrouver leur famille biologique. Il y a beaucoup aussi de gens qui font ça pour des questions médicales. Par exemple, ils ont une condition médicale X et ils veulent savoir ou retrouver les porteurs de certains gènes spécifiques. Par exemple, grâce à l'ADN, on a retrouvé qu'il y avait une fille du roi qui avait laissé à ses descendants une condition médicale spécifique. Il y a un ancêtre allemand aussi qui est arrivé au Québec dans les années 1770 qui a laissé une condition dégénérative à ses descendants. Fait qu'à partir des tests génétiques, on est capable de remonter jusqu'à cet ancêtre-là, d'identifier qui est porteur de certains gènes. C'est beaucoup pour des questions médicales, mais c'est aussi effectivement pour des questions identitaires.
Mais comme vous dites, Madame Risteau, puis c'est très intéressant ce que vous dites, c'est pas parce que tu as du sang autochtone que tu es autochtone. Rappelez-vous le vieux gag, un vieux gag, là. C'est un gars qui a adopté un bébé chinois, puis il dit « je suis un peu inquiet parce que quand il va se mettre à parler, je le comprendrai pas ».
C'est
complètement stupide. Tu vas justement adopter un bébé chinois, il est jamais allé en Chine, il a grandi au Québec, il parle avec un accent québécois, il est québécois. C'est pas un chinois,
ça,
là.
C'est un québécois.
Ben oui.
Tu sais, tous les enfants qui sont issus de l'adoption internationale, je veux dire, ils vont grandir dans une famille québécoise.
Ben
c'est pas
oui.
Parce que t'as de l'ADN, je sais pas, moi, vietnamien ou guatémaltèque, que ça fait pas de toi un québécois. Comme je disais souvent, qui fait l'identité, c'est une création sociale. c'est ton entourage, c'est ta famille, c'est ta communauté qui fait de toi qui t'es. Quand bien même que tu serais né en Chine, si tu as grandi dans une famille québécoise, t'es Québécois.
Ben oui. J'imagine au Québec, il y en a beaucoup qui ont du sang amérindien. Moi, on me dit, ma mère me dit que le père de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, était supposément avec avec une autochtone et j'ai la peau un petit peu foncée.
Oui, mais ça vous savez, tous nos ancêtres étaient pas blonds aux yeux bleus. Hein? c'est la légende de la grand-mère amérindienne. Moi, je pense que ça vient beaucoup. Il y a peut-être 47 à 48 mais ça, c'est mes chiffres personnels, là.
Oui.
Des centaines d'arbres. Il y a peut-être 47 à 48 des Québécois de souche, là, qui auraient une ancêtre amérindienne, mais c'est souvent la 12e génération. Il y a eu quelques ancêtres autochtones qui ont des milliers de descendants à venir jusqu'à maintenant. Ces mariages-là ont eu dans les années au 17e siècle, dans les années 1640, 1650. Mais c'est pas parce que tu as une ancêtre, tu descends de Marie Manitoba-Bewitch, qui est une des ancêtres les plus communes aux Québécois francophones, que ça fait de toi un autochtone. Si tu vas demander ta carte autochtone, ils ne te la donneront pas. Parce que
c'est ça.
Mais effectivement, il y a beaucoup de légendes comme ça. Il y a beaucoup Québécois, par exemple, dont les ancêtres ont fait la traite des fourrures, alors qu'ils sont allés dans l'Ouest, puis c'est probablement qu'ils ont eu des contacts avec des Amérindiens, mais ça, c'est souvent des légendes urbaines. Là, c'est souvent, moi, j'en fais beaucoup, puis ils me disent « Ah, moi, c'est ma grand-mère qui est amérindienne. »
Oui.
Finalement, tu t'aperçois qu'elle n'est pas amérindienne du tout, mais parce qu'elle avait les yeux blonds, les yeux noirs, les cheveux noirs, puis qu'elle fumait la pipe, puis que des fois, elle parlait un langage qu'on comprenait pas trop parce qu'elle était à moitié sénile. Là. Les gens vont s'imaginer que ou qu'ils n'ont pas trouvé sa naissance, ils vont dire « Ça y est,
oui, mais...
une Indienne. » On n'a pas trouvé sa naissance, mais c'est peut-être parce qu'elle est née ailleurs qu'au Québec aussi.
Ben oui, Madame Marisseau, qu'est-ce que ça me donne? Moi, mettons, là, j'envoie là, un peu de salive. Puis là, ils me disent 10 % de sang, nanana, 15 % de sang, nanana. Et alors?
Ça complète bien les légendes familiales. Des fois, ça peut même les confirmer ou les infirmer. Oui. Moi, je suis en train de lire un article justement sur les Robichauds acadiens. Il y a un ancêtre Robichaud qui ne serait pas un Robichaud, qui serait plutôt le descendant de Michel Richard dit sans souci, qui est l'ancêtre de tous les Richards acadiens. Là.
Oui.
Et ils ont réussi à trouver ça grâce à un test ADN. Ils ont découvert que tous les descendants, que le patriarche de cette lignée Robichaud-là, ne serait pas un Robichaud authentique. Pourtant, toute la documentation dit que c'est bien le fils d'un Robichaud et d'une Bourre, mais il y aurait des chances que soit la Madame Bourre en question a sauté la clôture, ou c'est un mariage qui n'a pas été documenté, parce que l'État civil acadien a été en grande partie détruite là, lors de la déportation en 1955.
Je fais preuve de mauvaise foi, Madame Richard, vous m'aimerez pas, là, mais j'ai déjà reçu une invitation. Effectivement, c'était un party des Martineaux. Là. Il y a les gens qui portent le nom Martineau au Québec faisaient comme une réunion et... Je me disais, pourquoi j'irais là? J'ai aucun point en commun avec ces gens-là. C'est comme si, mettons, on faisait, je sais pas, tous les gens qui ont Nissan Sentra 2001, on se rencontre tous dans le même bar.
Moi, je vous dirais qu'on a déjà fait une expérience comme ça, nous, avec des familles, avec des Richaud, et on a eu beaucoup de plaisir parce qu'on s'est découvert des points communs. On a découvert qu'on avait des traits de caractère qui se ressemblaient. On avait un type d'humour qui se ressemblait aussi. On a passé une merveilleuse soirée. Ça fait que ça vaut la peine des fois parce que même si on n'était pas du tout des mêmes lignées, on se connaissait pas, eux autres c'est des Richaud de la Gatineau, nous autres on était des Richaud de Québec. Puis on a évoqué toutes sortes de souvenirs familiaux. Et de légendes familiales aussi, ça fait qu'on a pu rectifier certaines légendes par rapport à notre famille, à nos ancêtres. Et des fois, c'est juste, ça nous permet de se rencontrer, de voir qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on n'a pas en commun.
Oui.
Moi, je trouve que c'est des belles les relations, les réunions familiales, c'est des belles occasions de rencontrer.
Ben, la prochaine fois qu'ils m'invitent, alors j'irai.
Allez-y.
Et tiens, je vous donnerai des nouvelles de cette soirée-là. Merci.
D'ailleurs, ma grand-mère maternelle est une Martineau.
Ah oui. OK.
Oui, ben, monsieur.
Vous la saluerez. Est-ce qu'elle a conduit une Nissan Sentra?
Elle est décédée, mais elle doit sûrement être fière de moi.
Merci, Mme Dominique Richetot, coordonnatrice à la Société généalogique canadienne-française. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.